Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous et bienvenue donc dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec vous, les auditeurs. Vous le savez, vous avez la parole tous les jours sur RTL dès 13h. Avant cela, le journal est à la une. Ce gros coup de chaud pour les pilotes d'un vol New York-Paris. Ils ont bien cru perdre le contrôle de leur appareil hier à leur arrivée à Roissy. Dans ce journal également, le parquet financier qui ouvre une enquête contre McKinsey, enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Et puis la préfecture du Nord, elle interdit la production de pizza dans l'usine Buitoni de Caudry, c'est dans le Nord. À 12h40, notre panier RTL, c'est notre baromètre du pouvoir d'achat et aucun doute, il explose, plus 3,3% en un mois. À 12h50, un jour une proposition, à 4 jours du premier tour de la présidentielle, RTL Midi continue de passer au crible les programmes des candidats. Aujourd'hui, on parlera école. Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne justement la hausse des prix. Avez-vous renoncé à acheter certains produits? Vous dites oui à 58%. Notre météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est toujours aussi gris.
Et oui, avec quelques pluies localement cet après-midi entre le sud-ouest et le nord-est. Les averses vont se réactiver sur les bords de Manche avec beaucoup de vent. Et puis c'est bien voilé près de la Méditerranée, mais sec. Peut-être aller un petit peu plus lumineux sur les côtes du Languedoc-Roussillon grâce au vent. Les températures, elles sont proches des valeurs de saison, de 12 à 16 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette grosse frayeur hier pour l'équipage du vol AF-011 en provenance de New York. À l'approche de l'aéroport de Roissy, le Boeing a dû brusquement remettre les gaz, Arnaud Touche.
Oui, les pilotes ont visiblement dû faire face à une situation très anormale dans le cockpit alors que le Boeing 777 était en approche finale. En témoignent ces échanges avec la tour de contrôle.
Oui.
Les alarmes retentissent dans le cockpit et les pilotes font tout pour résoudre la situation.
Air France Hotel Whisky.
Oui, on stoppe la sortie.
Vous voyez, la situation est quand même tendue dans le cockpit et quelques secondes plus tard, décision est prise de remettre les gaz.
Air France 011, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion fait à peu près n'importe quoi, donc le temps de gérer un petit peu la situation, si vous pouvez me donner une très longue vente arrière.
Ok, 011, ouais, j'ai vu au radar que ça partait à gauche et voilà, enfin bref.
Et pour l'instant, on ne connaît pas l'origine exacte du problème. Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête de sécurité pour un incident grave et les données de vol sont analysées en ce moment même par des experts. L'avion a tout de même pu atterrir en toute sécurité après une remise des gaz. C'est une procédure qui est maîtrisée par les pilotes, mais l'avion reste cloué au sol le temps de l'enquête.
L'avion a fait à peu près n'importe quoi, disait le pilote. Récit assez glaçant, hein, heureusement. Tout se termine bien. Merci. Absolument. À vous, Arnaud Touche. À 4 jours du premier tour de la présidentielle, on reparle de l'affaire McKinsey. Le parquet financier annonce l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Thomas Proto.
Absolument, ouverture sans réelle surprise après le rapport au vitriol sur le cabinet de conseil remis à la mi-mars par les sénateurs. Pour faire simple, la commission d'enquête du Sénat reproche à McKinsey de n'avoir payé aucun impôt en France entre 2010 et 2020. Et cela alors que le chiffre d'affaires en France du cabinet américain a atteint 330 millions d'euros en 2020, notamment grâce à de nombreuses commandes des ministères. Les sénateurs dénoncent une optimisation fiscale poussée jusqu'à la caricature. Alors, est-ce que ce montage financier de haut vol est légal, quand bien même il apparaît choquant, comme l'affirme McKinsey, ou bien le cabinet américain a-t-il volontairement maquillé ses bénéfices pour échapper à l'impôt? C'est tout l'objet de la procédure judiciaire en cours. Devant les sénateurs, un responsable de McKinsey France avait affirmé avoir payé tous ses impôts en France. L'enquête de la PJ parisienne devrait durer de longs mois, mais l'annonce de ces investigations du parquet national financier remet sur le devant de la scène une affaire qui a empoisonné jusqu'au bout la campagne d'Emmanuel Macron.
Thomas Proto du service police-justice de RTL. Jean-Luc Mélenchon était lui hier soir à Lille, mais aussi dans 11 autres villes, 12 meetings en simultané grâce à ses désormais célèbres hologrammes. Le candidat de la France insoumise, toujours à 3e dans les sondages. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Il y croit vraiment quand même au second tour?
Bah écoutez, ce qui m'a frappé hier, c'est qu'on ne l'a pas entendu dire qu'il était aux portes du second tour. Il a utilisé une autre formule plus prudente.
Si dimanche, vous portez notre candidature au deuxième tour, si dimanche, vous portez notre candidature et notre programme au deuxième tour, ce qui est dans l'ordre des choses possible.
Alors, il est en progression constante dans les sondages, mais encore relativement loin de la deuxième, Marine Le Pen. Il ne renonce pas, pourtant, il s'adresse à l'électorat protestataire qui hésite sur son vote.
Écoutez, vous autres, les fâchés qui n'êtes pas fachos, à la fin, où ça vous mène cette histoire d'essayer de porter cette femme au pouvoir ?
Hier soir, il a donc longuement contré les arguments de Marine Le Pen. Le pouvoir d'achat, l'avenir des jeunes, la retraite à 60 ans, c'est lui. En tout cas, c'est de ça qu'il espère convaincre les indécis.
Marie-Bénédicte Teller du service politique de RTL. Et on reparlera de ces élections, bien sûr, dans les auditeurs ont la parole. Les électeurs ont la parole cette semaine, vous le savez, avec vous, Marie-Bénédicte. L'avenir de la gauche, notamment, ce sera à partir de 13h. En attendant les suites de l'affaire Buitoni, et la préfecture du Nord a décidé d'interdire la production de pizza dans l'usine de Caudry. Franck Hanson, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. La préfecture évoque des problèmes d'hygiène.
Oui, ce sont deux contrôles effectués par les agents de la répression des fraudes les 22 et 29 mars derniers qui sont accablants pour l'usine. L'arrêté du préfet évoque des anomalies graves en matière de nettoyage et d'entretien des locaux, la présence de rongeurs au niveau de l'atelier boulangerie, un manque d'extraction d'air, un outil de production très dégradé qui constitue, je cite, une source importante de contamination des aliments. Le préfet du Nord souligne qu'il y a urgence à ce que des mesures soient prises pour préserver la santé publique. Un triste constat qui vient donc confirmer les propos d'anciennes salariées qui évoquaient des conditions de saleté déplorables avec même des morceaux de gants retrouvés sur des pâtes à pizza et des cadences infernales. La direction du groupe Nestlé assurait pourtant il y a une semaine tout juste que tous les prélèvements effectués sur les lignes de fabrication étaient négatifs, pas de traces de bactéries E. coli. L'enquête va se poursuivre, l'usine est toujours à l'arrêt, les 200 salariés de Caudry ne pourront pas reprendre le travail tant que de gros aménagements ne sont pas effectués.
Franck Hanson, dans le Nord, pour RTL, l'association Foodwatch dénonce, elle, de son côté, le manque de moyens des autorités de contrôle. Karine Jacquemart en est la directrice générale.
L'État est censé contrôler les contrôles des entreprises et s'assurer que, véritablement, la sécurité sanitaire des aliments est bien en place. Or, le problème, c'est que l'État a de moins en moins de moyens et de moins en moins d'effectifs pour faire des contrôles sur le terrain. On parle de plus de 440 postes à la répression des fraudes qui auraient été supprimés ces 10 dernières années. On parle aussi de, je crois, un tiers de moins de contrôle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc, c'est comme si on laissait libre champ aux entreprises de l'industrie agroalimentaire. Or, on ne peut pas leur faire une confiance aveugle, puisque on le voit bien, quand on laisse trop faire, et bien on a des scandales alimentaires.
Des propos recueillis pour RTL par Agathe Landais. La guerre en Ukraine est d'abord cet appel signé Boris Johnson.
Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факты.
Le peuple russe mérite la vérité, vous méritez les faits. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre britannique, vous l'avez entendu, s'adresse en russe, directement aux Russes. Si vous saviez ce qu'il se passe, vous ne soutiendrez pas cette guerre, poursuit-il en anglais, référence au massacre de Boutcha et à la propagande russe qui nie toujours les faits, l'horreur à Boutcha, mais aussi à Hostomel, où se sont rendus les envoyés spéciaux de RTL et de M6. Jean-Baptiste Bruno, bonjour. Vous avez patrouillé avec des policiers ce matin au milieu des cadavres.
Oui, ce matin, nous étions donc à Hostomel, dans cette ville qui jouxte Boutcha. Nous suivions une patrouille de policiers et nous sommes entrés dans une maison, puis nous emmenés dans un jardin. Et là, derrière deux sapins, nous avons découvert deux corps d'hommes, les mains liées dans le dos, face contre terre, avec des plaies par balles au corps et à la tête. Puis nous les avons suivis dans une zone industrielle. Nous avons été dans un ensemble de garages. Il y avait 6 garages verts. À l'intérieur d'eux, nous avons découvert 9 autres corps. 9 autres corps de civils, une vision assez insoutenable. Les médecins légistes sont arrivés juste après. Il y a aussi les forces spéciales pour sécuriser le quartier. Ce sont les policiers qui ont découvert ces corps en premier. Nous avons assisté aux opérations justement de ces médecins légistes. Donc vous voyez au fur et à mesure que les policiers avancent vers le nord et entrent dans ces maisons vides où les Russes avaient pris position, eh bien ils font de plus en plus de macabres découvertes.
Jean-Baptiste Bruno en direct d'Hostomel en Ukraine pour RTL et M6 sur le front économique. À présent, cette info rassurante, Pôle emploi annonce une année record en termes d'embauche. Plus de 3 millions de recrutements, ce serait 12% de plus qu'en 2021. Et parmi les métiers qui cherchent justement à recruter et qui ont parfois des difficultés, la boucherie, Patrick Tégéraud à Toulouse, un patron a trouvé la recette, un bon salaire et la semaine de 4 jours.
Le Benjamin de la boucherie Banelier, c'est Jérémy, il a 21 ans et comme tout le monde, il porte la cravate.
Mais c'est le dress code de la boucherie, quoi. C'est montrer que même sur des travaux manuels comme ça, et physiques, on peut être bien habillé, quoi. En soi, moi j'aime tout, le travail de la viande jusqu'à la vente.
C'est un métier que vous conseilleriez à des copains de votre âge?
Ah bah oui, bien sûr, ouais. Si on veut avoir un métier où on est sûr de tout le temps avoir du travail et qu'on peut aussi se faire pas mal d'argent, c'est super, quoi.
Dans son laboratoire, Patrick Banelier, le patron, a su trouver les arguments pour embaucher.
Quand on a les jeunes derrière, à côté du bio qu'on charre avec eux, pour essayer de les intéresser, c'est, vous voulez gagner de l'argent, venez dans le métier. Vous allez vous faire très rapidement 2000 balles par mois. Quand vous allez commencer à tenir votre propre boutique, vous allez gagner de l'argent. Autre critère que je me suis mis en place pour attirer la jeunesse, 3 jours de repos, 4 jours de travail. J'arrive à les attirer comme ça.
Patrick reconnaît qu'il faut au moins 2 mois pour recruter, et ce encore grâce aux bouche à oreille entre professionnels. La boucherie et désormais aussi la charcuterie comptent aujourd'hui 8 salariés.
À Toulouse, le reportage de Patrick Tégéro pour RTL. Et puis on vous parlait ce matin de ce méga gagnant de l'Euromillion qui a décidé de tout donner, ou presque 200 millions d'euros à un fonds pour l'environnement qu'il a lui-même créé. Isabelle Césari est responsable des relations gagnants à la Française des Jeux.
Les gagnants font preuve très souvent de générosité. En revanche, dans des proportions comme celle-ci, et au regard du montant du gain, c'est en effet tout à fait exceptionnel. Moi, je suis très émue à titre personnel que ce projet aboutisse, parce que c'est quelque chose que ce gagnant m'avait confié dès notre premier échange téléphonique au lendemain de son gain. Il avait pour projet de donner la plus grosse partie de son gain. Il m'avait dit « je jouais dans cet espoir ». Le fait qu'il ait pu concrétiser son projet dans un temps court, hein, puisque ça fait un peu plus d'un an qu'il a gagné, et de le voir rempli de bonheur comme il est, c'est beaucoup d'émotion, c'est une grande satisfaction.
Des propos recueillis pour RTL par Léonard Cassette. Et vous, que feriez-vous, tiens, si vous gagniez 200 millions d'euros? Est-ce que vous donneriez tout à une association? Je vais y arriver, vous pouvez nous appeler à partir de 13h au 32-10. Pour l'heure, il est 12h42 sur RTL, vous restez avec nous dans un instant. On va continuer, tiens, à parler d'argent. Notre panier RTL, il est en forte hausse. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Vous avez entre des fois 15 voire 20 euros de différence entre les tickets. Au niveau des pâtes, au niveau de l'huile, comme je vous l'avais dit, bon, il y a pratiquement entre 10 voire des fois 15 centimes d'euros de prix sur les 3 derniers voire les 4 derniers mois.
Lorsqu'il fait ses courses, Lillois garde tous ses tickets de caisse. Et vous l'avez entendu, il est formel, hein, les prix augmentent mois après mois. Même constat pour notre panier RTL qui bondit de 3,3% au mois de mars, au plus haut depuis notre premier panier. C'était en octobre. Alors comment expliquer une telle augmentation, de telles disparités aussi, vous allez voir, selon les régions. Et puis jusqu'à quand, jusqu'où ça va aller? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous. Pierre Herbulot du service économie de RTL. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et Yves Puget, directeur des rédactions du magazine Elessa, spécialiste de la grande distribution. Bonjour. Yves Puget, vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour.
Alors, pardon, moi je ne vous entendais pas. Pierre, je me tourne d'abord vers vous. Notre panier RTL, il faut le rappeler aux auditeurs qui maintenant ont l'habitude, c'était une sorte de baromètre du pouvoir d'achat, notre baromètre. Tous les mois, les journalistes de la rédaction, ici à Paris, mais aussi en région, achètent les mêmes produits dans les mêmes magasins et on atteint donc un niveau record.
Oui, en mars, notre panier RTL coûte désormais 25,36 €, donc un peu plus de 3% d'augmentation sur un mois, vous le disiez, sachant qu'on avait déjà à peu près 3% d'augmentation le mois précédent, tendance largement inflationniste donc. C'est déjà le sixième panier qu'on fait depuis le début de la saison. Et donc, pour les 13 mêmes produits, Amandine, des produits du quotidien, il faut débourser 1,50 € de plus. Hein, c'était le mois d'octobre le premier, donc c'est quand même considérable. Alors, dans le détail, tout augmente ou presque. Les pâtes, le soda, le lait, à chaque fois c'est 1-2 centimes, mais tous les mois, mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Ce mois-ci, on a la viande hachée et les haricots en conserve qui augmentent d'un peu plus de 10 centimes, donc c'est déjà davantage. Et puis il y a deux produits qui sortent du lot. Le café, le paquet de 250 grammes prend 21 centimes d'un coup, ça fait 10% d'augmentation. Je rappelle que c'est sur un mois, donc c'est vraiment énorme. Et puis par endroit, à Paris, hein, pour le café, on a vu, moi je l'ai constaté dans le supermarché où je fais le relevé, le paquet d'un café de grande marque passait de 3 € à 3,59 €. Donc
parfois, c'est pas la même histoire.
Voilà, il y a des augmentations qui sont très importantes. Et puis l'autre produit, celui qui augmente le plus, c'est l'huile de tournesol.
Ça, c'est le produit parmi tous nos produits qui augmente le plus.
Oui, c'est très, très, très impressionnant et même presque inquiétant. Une bouteille d'un litre vous coûte, encore une fois, c'est une moyenne, 34 centimes de plus qu'au mois de mars, 15% d'augmentation. Mais donc, comme pour le café, il y a des disparités. pour une grande marque. Nos correspondants à Marseille et à Lille ont remarqué des hausses de prix effarantes, avec des augmentations parfois d'un euro sur une bouteille qui en vaut deux.
Ah oui, voilà. Parce que 50% d'augmentation. Quoi.
Ouais, exactement, 47% précisément. Ça vaut pour les particuliers, mais ça vaut aussi pour les professionnels qui passent, pour certains, en mode système D. Ça, c'est Anaïs Bouissou, journaliste au service éco, qui l'a constaté dans un bistrot. Elle nous emmène en cuisine, juste à côté de la friteuse.
Ça, c'est 4,99€, alors que d'habitude, l'année, c'était 2,30€.
La solution, c'est de limiter la qualité des frites en conservant l'huile plus longtemps.
Le bain d'huile, là, il y a 20 litres à peu près. On doit changer toutes les semaines, sinon il va devenir noir. Mais maintenant, on rallonge un peu, on va changer au bout de 2 semaines.
Voilà, quand je vous dis que c'est le système D. Alors normalement, c'est tous les 4 utilisations qu'il faut changer le bain d'huile. Bon, une envolée des prix. Voilà, une envolée des prix qui crée la panique en supermarché aussi. Plus d'huile de tournesol dans celui où je fais les relevés en région parisienne. Les explications, c'est quoi? C'est le prix des matières premières qui a augmenté. C'est pour ça que ça augmente autant. Mais la panique en supermarché, c'est surtout parce que l'Ukraine fournit un maximum de tournesol. 100% de nos importations viennent d'Ukraine. Ça fait peur. Les gens achètent et stockent.
Yves Puget, cette histoire d'huile, Pierre le rappelait à l'instant, la moyenne de notre poignet, c'est 15% d'augmentation et ça va jusqu'à 47% donc à Lille et Marseille pour la même huile, même marque, même bouteille. Est-ce que certains distributeurs profiteraient pas de la très forte demande, de l'inquiétude justement des consommateurs pour augmenter les prix?
Oh non, la concurrence est telle que les distributeurs ne peuvent pas jouer à ce petit jeu dangereux parce que les Français comparent et ça se verrait très vite, ça se saurait avec Internet, ça se diffuserait très rapidement. Après, effectivement, l'huile, si on regarde les panélistes, qu'on appelle les panélistes, c'est-à-dire les gens qui sont connectés aux caisses des hypermarchés et supermarchés, l'huile, effectivement, en moyenne, est en augmentation de 7%. Donc oui, il y a de fortes inflations, c'est certain. Et en plus, ça vient après 8 ans de déflation où les Français ne pensaient pas que les prix baissaient. Alors vous pensez bien que quand là, du coup, les prix montent réellement, les Français sont persuadés que ça augmente très fortement.
Alors, toutes ces augmentations qu'on constate tous, hein, tous les jours, elles sont liées au Covid. Pour les conséquences de la guerre en Ukraine, là, il y a des discussions en cours actuellement, Yves Puget.
Oui, oui, effectivement, il y a les négociations ou les renégociations. Le gouvernement a permis aux distributeurs de réouvrir les contrats, comme on dit, parce qu'il faudra ajuster, parce que les industriels ont des hausses de matières premières, mais il faut surtout pas se focaliser uniquement sur les hausses de matières premières. Il y a des hausses sur les emballages, il y a des hausses sur le transport, sur l'énergie. Il y a un fabricant de pâtes, par exemple, qui est quasiment un petit peu en rupture, mais ce n'est pas dû au blé, c'est dû au carton. Le manque de carton. Donc aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a plein de facteurs qui font qu'il y a des difficultés. En revanche, je tiens à le préciser, tous les distributeurs que j'ai interrogés me disent tous, pendant encore quelques mois, logiquement, il n'y a pas de rupture à craindre. La rupture, elle vient d'une surconsommation et
donc,
non pas d'un problème
d'approvisionnement. Il ne faut pas se ruer sur les produits voilà. Comme le font certains. Et on a vu ces rayons vides, que ce soit l'huile ou on avait vu le papier toilette.
Les pâtes aussi, les pâtes, c'est arrivé. Hein. Et là, pour le coup, c'était la crainte, c'était ce dôme de chaleur sur le Canada qui produit du blé dur. On sait que la production était plus faible, mais il n'y avait pas de raison de s'inquiéter outre mesure.
Encore un mot, Yves Puget, qu'est-ce qui va le plus augmenter et dans quelle proportion ces prochains mois pour les auditeurs qui nous écoutent?
Alors, je pense qu'on va arriver rapidement à une moyenne de 5% d'augmentation des prix, mais la moyenne, comme d'habitude, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il y a des marchés qui vont augmenter peut-être de 10-15%. Mais
Lesquels, par exemple ?
La moyenne, si on n'est qu'à 5%, c'est qu'il y a des produits qui vont baisser. On peut déjà regarder que les produits pour le lave-vaisselle, c'est à moins 4. Les brosses à dents, ne me demandez pas pourquoi, c'est à moins 3. Le gel douche est à moins 3. Donc ça va être aux Français de comparer les différents marchés et d'arbitrer, parce que le juge de paix, ce sera le consommateur. Il va peut-être changer d'enseigne pour aller dans une enseigne moins chère. Il va peut-être changer de produit. Et puis le seul conseil qu'on a à donner, c'est surtout arrêter de gaspiller. Là, vous ferez des économies.
5% d'augmentation en moyenne, jusqu'à 10 ou 15 selon les produits. Merci à vous, Yves Puget, d'avoir été en direct avec nous, directeur des rédactions du magazine LSA. Merci aussi à vous, Pierre. Pierre Herbulot, le panier RTL, le prochain dans un mois.
Dans un mois, au mois de mai. Voilà.
Eh bien, rendez-vous au mois de mai. On se retrouvera d'ici là. Dans une toute petite seconde sur RTL, c'est un jour une proposition. Vous savez, on passe au crible les propositions des candidats à 4 jours maintenant du premier tour. Aujourd'hui, on parle école. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Présidentielle 2022.
J-4.
Et vous en avez pris l'habitude sur RTL, hein, RTL Midi passe au crible les programmes des candidats. 4 jours maintenant du premier tour. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'école. Qui propose quoi? C'est vous, Marie Guerrier, qui vous êtes penchée sur la question. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec les propositions qui concernent directement nos enfants. Et il y a un point sur lequel les candidats sont tous d'accord. Nos classes sont surchargées.
Oui, alors ensuite, il y a des variations sur le nombre idéal d'élèves par classe. Pas plus de 19 partout d'ici à la fin du quinquennat. C'est ce que promet Jean-Luc Mélenchon, alors en commençant tout de suite par toutes les classes en éducation prioritaire et en maternelle. 20 par classe, c'est ce que dit Jean Lassalle ainsi que Philippe Poutou. Le communiste Fabien Roussel fait lui des distinctions. 20 en maternelle et en primaire, 25 élèves en collège et en lycée. Pour Marine Le Pen aussi, hein, c'est 20 en primaire, mais ensuite elle estime que ça peut aller jusqu'à 30 en collège et lycée. Alors Emmanuel Macron a déjà commencé le dédoublement, on le sait, en zone d'éducation prioritaire. Il veut achever le dédoublement dans les classes de grande section, et puis il voudrait qu'il n'y ait pas plus d'élèves, 24 élèves par classe, dans les autres zones, hein, que ce soit en grande section, en CP et en CE1. Pour Nathalie Arthaud de Loutouvrière, le dédoublement, ça devrait être partout.
Oui, il faut dédoubler toutes les classes, en particulier dans les quartiers populaires, mais oui, il faut des moyens, et des moyens humains. On n'est pas en train de fabriquer des godasses. C'est un rapport humain. Il faut aller chercher l'enfant, il faut aller chercher le jeune. Pour ça, il faut du temps, il faut pouvoir s'intéresser à chacun et il faut pouvoir travailler en petits groupes.
Donc il faut des moyens, dit Nathalie Arthaud. La baisse des effectifs du nombre d'élèves par classe, pour beaucoup de candidats, ça va aussi avec une augmentation des effectifs de profs. 160 000 embauches d'enseignants sur le quinquennat. Le quinquennat, c'est ce que promet Jean-Luc Mélenchon. 90 000 personnels supplémentaires pour les communistes, 65 000 profs en plus pour les écologistes, 10 000 dans le programme de Valérie Pécresse.
Je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez les questions d'éducation, Marie, mais j'ai l'impression que ça, c'est des discours qu'on entend très régulièrement. Moins des élèves, plus de profs.
Exactement. 160 000, c'est quand même un record là dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Concernant les programmes scolaires, qui propose quoi?
Alors le mot qui revient tout le temps, hein, c'est les fondamentaux. Lire, écrire, compter, ça on retrouve ça dans quasiment tous les programmes. Des heures de maths et de français en plus à l'école primaire, ça c'est Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan qui le disent. Marine Le Pen aussi, elle ajoute de l'histoire. Elle veut d'ailleurs que tous les programmes soient votés par les députés à l'Assemblée nationale. Anne Hidalgo veut libérer et moderniser la pédagogie. Elle prévoit d'organiser des états généraux sur les programmes. Yannick Jadot, lui, veut organiser une conférence de consensus parce que, au-delà des fondamentaux, il veut aller plus loin.
Moi, je veux que, comme en Finlande, qui a aujourd'hui le modèle d'éducation, l'un des meilleurs modèles d'éducation au monde, je veux mettre tous les acteurs autour de la table pour réfléchir, une fois qu'on a mieux payé les enseignants et on a embauché, pour réfléchir aux méthodes pédagogiques. On sait qu'on doit renforcer l'enseignement sur la vie affective, sur la tolérance, sur le numérique, sur l'environnement, sur beaucoup de sujets.
Mais comment on organise ça dans l'année scolaire? Il n'exclut pas de revoir les rythmes, réduire par exemple les vacances. Jean-Luc Mélenchon veut aussi une concertation sur les rythmes scolaires. Marine Le Pen, elle, souhaite que tous les élèves en primaire aient cours le mercredi matin, sans raccourcir les autres journées. Ça veut donc dire 3 heures de cours hebdomadaires supplémentaires pour les écoliers. Et c'est aussi d'ailleurs dans le programme des communistes. Et puis il y a laisser de l'autonomie dans le fonctionnement des écoles. Ça, on le trouve dans les programmes d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse.
Au collège, certains veulent tout remettre à plat.
Comme Éric Zemmour, il veut contrôler le niveau de fin de CM2 en faisant passer un certificat aux élèves et ensuite en finir avec le collège unique en mettant en place des classes de niveau à partir de la 6e.
Au nom de l'égalité, le collège unique a voulu mettre dans la même classe des élèves forts et des élèves faibles pour que les uns et les autres progressent ensemble. Les forts sont devenus moins forts et les faibles n'ont absolument pas progressé.
Donc il veut des classes de niveau. Chez les Républicains, Valérie Pécresse prévoit un examen d'entrée en 6e.
Ceux qui le rateraient rentreront dans des sections de consolidation. C'est-à-dire qu'ils seront au collège, mais ils seront dans des sections de consolidation.
Donc vous mettez
parce
du bon
que...
d'un côté et les mauvais
non,
de l'autre, c'est ça
non,
l'idée ?
Non, on met dans les classes des sections où il y a des jeunes à qui on fait français renforcé, maths renforcé. Parce que ça sert à rien de commencer à apprendre l'anglais et la physique quand on n'a pas les fondamentaux. Et c'est là que commence le décrochage.
Au collège, donc, pour Valérie Pécresse, des classes différenciées pour les élèves. Emmanuel Macron, lui, veut à partir de la 5e qu'une demi-journée par semaine soit consacrée à la connaissance des métiers, en y incluant les cours de technologie et puis, par exemple, des rencontres avec des professionnels, des sorties dans des entreprises. Les écologistes prévoient, eux, 2 heures d'apprentissage pratique par semaine pour les collégiens. Par exemple, bricolage, jardinage, cuisine.
Un mot du bac, tout le monde ou presque va abroger la réforme.
Oui, alors à part Emmanuel Macron qui défend sa réforme, mais remet des maths dans le tronc commun. Valérie Pécresse dit aussi qu'elle conservera le système des choix de spécialité, avec elle aussi des maths en plus. Tous les autres veulent détricoter la réforme du bac et du lycée.
Bon, et les profs dans tout ça, Marie ?
Alors là aussi, le constat, il est unanime. Ils ne sont pas suffisamment payés et tous les candidats promettent de meilleures rémunérations. Alors les uns parlent en pourcentage, hein, plus 15% pour Jean-Luc Mélenchon, plus 20% sur 5 ans pour les écologistes, 30% pour les communistes. La socialiste Anne Hidalgo, elle, avance un chiffre.
Ça veut dire d'abord reconnaître leur rôle, les considérer et les mettre au niveau de salaire auquel ils doivent être. Ce sont des cadres. Quand ils rentrent dans la carrière, je veux les mettre au niveau de rémunération des cadres à 2350 euros par mois.
Voilà, ce sera sans contrepartie, a dit la candidate socialiste. On sait que le président sortant, lui, a conditionné les augmentations de rémunération aux missions supplémentaires que feraient les profs. C'est aussi ce que dit d'ailleurs Valérie Pécresse, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan. Éric Zemmour, lui, parle de primes qui seraient données sur la qualité de la transmission du savoir et les enseignants seraient alors plus inspectés. Puis je reviens à ce que disait Marine Le Pen. Elle veut que les enseignants travaillent le mercredi matin. Ils seront payés pour ça à l'école primaire, en plus, dit-elle. Et puis, elle promet des augmentations de salaire qui iront en supplément.
Merci beaucoup Marie Guerrier. Je rappelle que tous les programmes de tous les candidats sont visibles et détaillés sur notre site rtl.fr. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sont les électeurs qui ont la parole. À tout de suite.
RTL Midi. Dans la...